Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h. Notre thème d'aujourd'hui, ce sera la science. On va essayer de traiter ce thème, enfin, du moins une partie du thème, parce que le champ est immense, avec Nabil El Aghar, qui est vice-président de l'Université de Lille, qui est donc vice-président chargé de la culture, de la communication et du patrimoine. Bonjour Nabil.
Bonjour René.
Donc aujourd'hui, on va traiter de la science à travers différentes questions, différentes problématiques. Tout d'abord, on va parler de la culture scientifique et donc cette culture qui doit se propager. C'est un bien collectif qui se développe sans cesse. Comment peut-on en parler? Parce que souvent, on imagine qu'elle est relativement réservée à des initiés. Pourtant, il est important que les gens s'en emparent, et notamment ceux qui veulent faire des études, qui veulent comprendre les choses, le monde, la science, et aussi ses applications. Sans connaître les possibilités de la science, difficile de se projeter dans le temps.
Oui, d'abord il faut rappeler une évidence, c'est que la science est un objet culturel en soi. En d'autres termes, la science produit de la culture, obligatoirement. Et que à ce titre, la science est une culture, et que cette culture fait partie de la culture, de ce que nous avons pour habitude d'appeler la culture. Et qu'il ne faut pas tomber, me semble-t-il, déjà pour commencer, ne pas tomber dans le premier piège, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier piège, celui-ci classique, c'est-à-dire le piège, je dirais, franco-français, qui consiste souvent à mettre les objets dans des tiroirs différents. Et entre autres, on a tendance donc à parler de culture scientifique comme si la culture scientifique était un objet à part. Et la culture artistique est un autre objet à part. Le patrimoine est un troisième objet, et ainsi de suite. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et là j'adhère plus à la culture anglo-saxonne, de ce point de vue-là, qui considère que tout est culture. Enfin, toutes les cultures sont des objets qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas, qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas, mais en tout cas, elles se regardent, et puis, voilà, et la culture scientifique est effectivement une partie de notre culture dans toute son immensité.
Alors, peut-être que cette façon de procéder en France, ou ce regard que tu as sur l'isolement un petit peu des cultures en général, donc de la culture scientifique en particulier, c'est peut-être dû aussi au fait que, par exemple, quand on est étudiant à l'université, dans une université scientifique, souvent la littérature et des choses comme ça, on n'y a plus trop accès, ou du moins... c'est pas dans les cours. De même, quand on est en littérature ou autre chose, la science paraît bien éloignée des bases qui ont été données au lycée, par exemple.
Oui, ce sont les conséquences de cette manière de voir le monde que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que nos étudiants, ils font un cours de science, et donc pour eux, la science est à part. Les étudiants qui font un cours de littérature, pour eux, la littérature est à part. Alors que la littérature et la science ont de multiples occasions et de multiples raisons pour se rencontrer. Et c'est dans ce sens-là que je voulais dire que la culture scientifique est en réalité une culture qui fait partie de notre culture, c'est-à-dire de la culture de l'humanité.
Alors, l'Université Lille-1 a la chance d'avoir un espace culture où justement toutes les cultures se côtoient, sinon se partagent.
Absolument. Nous faisons de sorte que chaque semaine et à chaque moment que l'espace culture produit un événement culturel, que cet événement culturel puisse brasser les différentes cultures, puisque ce ne sont pas les objets culturels en soi qui ont la priorité dans cet espace, mais plutôt le fait que les objets, quels qu'ils soient, du moment où ils sont des objets, il s'agit des objets culturels, finissent par proposer au public des éléments afin que chacun puisse mieux comprendre le monde qui l'entoure.
Alors, on le voit bien, par exemple, avec l'exposition qui a lieu actuellement. Une partie est constituée de deux films qui sont projetés en simultané. Et au sol, on voit des mots, des phrases qui sont issues du monde informatique, Internet. Et donc, on voit bien que sans technologie, sans science, même la beauté de la poésie, des spectacles audiovisuels, des performances, ben, elles ne pourraient pas se faire avec autant de richesse.
Absolument, tout à fait. Et justement, la question que l'on se pose souvent, c'est où est le problème pour que nos concitoyens puissent accéder à la culture scientifique. Et là, on peut se rendre compte, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a... Il y a parfois dans les bouches ou dans les paroles des uns et des autres des ambiguïtés qui font qu'on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit quand on parle de culture scientifique. Ou plutôt souvent on parle de vulgarisation de la science. Et à ce propos, il faut quand même replacer les choses à leur place, sinon autrement on trompe. On trompe nos interlocuteurs. D'abord, il faut dire que la connaissance scientifique est difficile d'accès, non parce que des méchants scientifiques élitistes veulent la conserver pour eux, mais parce que pour la comprendre, il faut suivre un cheminement convenable, c'est-à-dire que c'est le rôle de l'école de donner les moyens aux élèves de suivre ce cheminement.
Est-ce qu'on peut dire qu'on apprend, la science comme on apprend à lire ou à écrire ou à parler ?
Bien sûr, bien sûr. L'apprentissage de la science est absolument nécessaire. Il n'est pas facile, mais c'est comme l'apprentissage de la philosophie, il n'est pas moins facile.
Et c'est un langage commun.
Et c'est un langage commun, bien entendu. L'inconvénient que nous constatons aujourd'hui, c'est que à défaut d'assumer l'enseignement de la science dans l'école en France, nous mettons de la culture scientifique à ces élèves qui grandissent, qui deviennent des collégiens, et puis après ils deviennent des universitaires et qui n'ont pas une culture scientifique suffisante. Alors, on propose de la vulgarisation.
Donc, le champ de la science, ou des sciences, mais disons de la science est immense. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun nécessaire pour qu'on puisse se comprendre ? C'est-à-dire que est-ce que chacun devrait avoir un minimum de connaissances des sciences pour justement avoir une idée de comment le monde se construit ?
Absolument. Et c'est je dirais que c'était la principale comment dirais-je, revendication et la principale, le principal souci de philosophes de Lumière. Donc c'est depuis plusieurs siècles que justement Kant a dit il faut penser le monde par soi-même déjà. Et puis un peu plus tard, nous n'oublions pas ce qu'il disait Condorcet quand il a dit que il faut que tout le monde puisse comprendre le monde, c'est-à-dire que chacun puisse accéder au savoir et aux connaissances. Et il est évident, il est clair que la science est un élément structurant, fondamental de notre pensée aujourd'hui, et ses conséquences. Ces conséquences, qui sont d'ailleurs très présentes, de plus en plus présentes dans notre quotidien, à travers les technologies et les techniques. Nous sommes débordés par les objets techniques et les objets issus de la science, imposent à ce que nous ne soyons pas seulement de consommateurs de science, et plutôt nous ne sommes même pas consommateurs de science, en réalité nous sommes de consommateurs de techniques et de technologies. Alors que nous, bien que, évidemment, il faut en consommer, mais il ne suffit pas d'être consommateur. Et c'est même très dangereux, puisque être consommateur, c'est de ne plus être citoyen. En d'autres termes, la science n'est pas neutre, mais c'est comme toute culture. Comme toute culture, aucune culture n'est neutre. Par définition, les cultures, quelles qu'elles soient, et quels que soient les objets qui précède à ce qu'une culture puisse s'épanouir et s'imposer dans une société, en tout état de cause, c'est toute culture n'est jamais neutre. Et il appartient aux citoyens de non pas de contrôler, mais il appartient aux citoyens de poser un regard critique sur la culture, quelle qu'elle soit, y compris sur la science et les conséquences de la science et les technologies issues et les techniques issues de la science.
Alors, donc toujours par rapport à la science, comment tu vois les choses entre savoir, connaître et comprendre ?
C'est-à-dire que pour moi, la question peut être traité de la manière suivante. D'abord, comment transmettre les savoirs scientifiques indispensables à la compréhension du monde? Ça, c'est la première question. La réponse à cette question, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour transmettre le savoir scientifique indispensable à la compréhension du monde, rejoint la question de comment former la pensée scientifique. Comment former la pensée scientifique? Et ça nous semble évident que l'école a un rôle majeur dans cette question. On ne peut pas prendre le rôle de l'enseignement de sciences, c'est par là où j'ai commencé, on ne peut pas prendre l'enseignement le rôle de l'enseignement de la science à l'école à la légère. Et il faut que l'enseignement de la science soit extrêmement sérieux, et c'est seulement et uniquement, contrairement à ce qu'on attend dire par-ci et par-là, c'est uniquement par l'enseignement de la science que nous pouvons accéder à la science, à la compréhension de la science, et donc par voie de conséquence à mieux comprendre le monde. Ça c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi dire qu'il y a comment parler de science et comment mettre en place de débats entre nous, en société, de débats de société et de débats citoyens sur les innovations technologiques. Et c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, les conséquences de la science. Pour pouvoir discuter de conséquences de la science, d'abord il faut s'instituer soi-même comme étant un citoyen et un citoyen éclairé. Et si on n'est pas éclairé, nous ne pouvons pas avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est un peu on vient de faire le tour. Donc il faut être éclairé. Pour être éclairé, il faut être averti. Pour être averti, il faut avoir reçu un enseignement sur la science et par voie de conséquent avoir la conscience de soi-même que nous avons un regard critique sur le monde, que nous vivons en démocratie. Et donc là aussi le troisième élément qui doit être vraiment au centre de ce débat, c'est la responsabilité politique de ceux qui nous gouvernent, autrement dit la question de la gouvernance. On ne peut pas ne pas impliquer nos citoyens dans le débat autour de la science, autrement dit ce qu'on appelle d'ailleurs classiquement science et démocratie. Science et démocratie, ça veut dire tout simplement, ce n'est pas simple du tout en réalité, c'est pas simple du tout, c'est que les conséquences de la science sont des conséquences sur la société et la société telle que nous la souhaitons ou nous la souhaitons pas. Et ça se discute et le choix scientifique, ça se discute. En tout cas, les citoyens doivent être informés et pour qu'ils puissent poser un regard critique sur ces conséquences technologiques, ça suppose que les citoyens sont éclairés.
Alors justement, dans cette notion d'éclairage, il y a aussi un regard et parfois un bilan à faire d'une société, voir d'où on vient, où on est et où on va. C'est pas évident de s'y retrouver entre la modernité et le progrès. Et là, la science contribue à la fois à l'un et à l'autre. Comment on s'y retrouve en tant que démocrate ou dans une démocratie digne de ce nom ?
Je reste persuadé, et ce qui fait que je me répète quelque part, nous pouvons être citoyens dignes de ce nom si nous n'avons pas conscience d'abord de notre citoyenneté, et pour qu'on ait conscience de notre citoyenneté, cela suppose que nous avons accédé à un certain nombre de corpus culturels qui font de nous des êtres éclairés. Donc on revient toujours à la même question. Et pour être éclairé, ça veut dire qu'on nous a donné les moyens depuis notre jeune âge, quand c'est possible, hein, et pour dans un pays, un grand pays comme le nôtre, on va à l'école gratuitement dès notre jeune âge. Normalement, on est censé avoir tous les éléments suffisants et nécessaires mis à disposition de l'enfant et de l'adulte pour qu'il puisse accéder au savoir et aux connaissances. Le problème et la grande question, c'est pourquoi cet accès semble de plus en plus un accès qui n'est pas égalitaire. Et que pourquoi aujourd'hui une grande partie des enfants français n'accèdent pas au savoir et connaissances. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui on se rend compte de plus en plus que les enfants ont besoin d'être soutenus par des associations ou par des même maintenant il y a de plus en plus de entreprises. Des entreprises de soutien scolaire. Alors il paraît, moi je ne connais pas bien, mais il paraît que c'est un commerce très florissant aujourd'hui.
Ça va se développer, c'est clair.
Et que ça va se développer de plus en plus. Ça veut dire que l'école, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire qu'il y a un marché et qu'il y en a qui sont prêts à sacrifier l'école pour faire marcher le commerce.
Voilà, ça c'est d'une part. Et d'autre part, alors que normal, est-ce que cela pose la question sur l'organisation de l'école? Est-ce que l'école n'arrive pas à assumer ses responsabilités? Si l'école n'assume pas ses responsabilités, c'est de la responsabilité de quel? Est-ce que c'est la responsabilité de l'enseignement lui-même, des enseignants, ou est-ce que c'est la responsabilité de l'État? Puisque notre école est une école publique et que l'école publique, ça suppose que nous avons tous les éléments nécessaires mis à disposition des enseignants. Avons-nous suffisamment d'enseignants? Avons-nous des enseignants qui sont suffisamment, qui ont la culture suffisante pour pour passer ce qu'il faut, que ce soit en matière scientifique ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ça nous ramène à un vieux débat d'ailleurs, qui n'est pas nouveau, un vieux débat, un grand débat, et il est extrêmement navrant et désolant que nous ne parvenons pas dans un État démocratique comme le nôtre à faire débat autour de l'ensemble de ces questions. Et la question de la culture scientifique, par laquelle nous venons de commencer aujourd'hui, est en quelque sorte, en réalité, n'est pas un début, mais c'est elle est a priori, j'allais dire, naturellement, aurait dû être la fin de circuit qui mène l'enfant de son plus jeune âge jusqu'au moment où il est à l'université pour accéder à la science et devenir un scientifique.
Alors justement, pour que ces jeunes, on va dire les enfants, les jeunes, etc., soient motivés, donc intéressés, il faut aussi, au-delà des moyens mis à disposition des professeurs, des livres, de toutes les techniques qui permettent d'accéder, entre guillemets, au savoir, il faut que les jeunes aient l'impression que c'est passionnant d'apprendre la science et de la maîtriser autant que possible. Comment on peut améliorer les choses? Alors, il y a des opérations qui se font dans les universités, bien sûr. Il y a aussi des associations qui font vulgarisation. On parlait de ça à un certain temps, scientifique, pour donner un peu cet appétit de découverte. Hein. Comment on peut encore aller plus loin?
Alors, le piège, parce qu'il y en a un, il faut que nous soyons, faut que nous disions tout. Le piège, je dirais, qui est devenu classique, c'est de faire croire que la science, n'ayant pas à laquelle on n'a pas accédé correctement quand on était à l'école, ou même quand on est toujours encore à l'école d'ailleurs, par exemple, on est en cours de physique, et la physique est évidemment difficile. Accéder à la physique, ce n'est pas facile. Et dire le contraire, c'est se moquer du monde. C'est-à-dire, c'est tromper le monde. Donc la physique est difficile. Étant difficile, donc elle devient barbante. Et alors, c'est là où le piège commence à apparaître, c'est qu'on va effectivement emmener les élèves, par exemple, à la Cité des Sciences, ou dans un forum de sciences, ou à l'espace culture, et on va leur montrer un spectacle scientifique, ce qu'on appelle les spectacles scientifiques. Ou on va éventuellement aussi leur montrer comment Ariane 5 arrive à 10 cm près en contact avec la station spatiale. Et ce qui est magnifique comme spectacle. C'est un très beau spectacle. Et effectivement, on dit à l'enfant, voyez, voilà la science. Et la science n'est pas barbante. La science, elle est sympathique, elle est magnifique, elle est belle. Et effectivement, l'enfant voit une science magnifique. Le piège, il est où? Le piège, c'est que de faire croire à l'enfant que ce qu'il vient de voir, d'abord, de ne pas lui dire que Ariane 5 a pu arriver à 10 cm près à la station spatiale internationale, parce que derrière cela, il y avait la science. Et la science, ça veut dire qu'il y avait la science, il y avait les équations différentielles. Et sans les équations différentielles, il n'y aurait pas eu Ariane 5. Voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber et tromper le monde.
Voilà, donc au-delà du spectacle, voire de la magie, la science, ça s'apprend, ça se comprend, ça se réfléchit et ça se travaille avec des gens compétents. Merci Nabil El Agha.
C'est moi qui te remercie.